Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Eh bien écoute bien, puisqu'au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à quelques jours du...
Déconfinement.
Un peu fort, déconfinement, alors déconfinement partiel au moins, mais voilà, ouais. Donc peut-être une lueur d'espoir.
Oui, il faut surtout espérer que ça soit positif pour la santé publique.
Exactement, c'est comme cela que je le prenais. C'est-à-dire que s'il y a déconfinement, il y a, c'est qu'a priori les données chiffrées sont en grande progression.
Alors nous avions la semaine dernière, Renaud, abordé les politiques de soutien aux entreprises et les politiques de relance économique suivies par les différents États. Et nous étions donc sur la perspective de la relance à proprement parler, dont tu voulais nous parler cette semaine.
Voilà, exactement. Donc, en fait, les États, les gouvernements des pays occidentaux développés ont donc tous choisi de suivre la voie qui avait été la leur en 2008, c'est-à-dire face à une crise, une récession qui se traduit à la fois par une diminution de l'offre et par une diminution de la demande, de mettre en place des politiques de relance tout azimut, c'est-à-dire des politiques de relance qui visent à la fois à soutenir la demande et à la fois à soutenir les entreprises, et des politiques de relance qui sont à la fois le fait des États, via ce qu'on appelle des politiques budgétaires, donc c'est de cela dont nous entendons beaucoup parler, et dont nous avons parlé en partie la semaine dernière, lorsque l'on évoque par exemple le chômage partiel qui est prolongé sous certaines conditions, les 1500 euros qui sont proposés aux indépendants dont l'activité cesse, sous certaines conditions.
Le prêt garanti aux entreprises garanti par l'État à hauteur de 0%.
Voilà, les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie peuvent emprunter auprès des banques avec un prêt qui est garanti par l'État, ce qui est censé inciter fortement les banques à accorder ces prêts, puisque si jamais l'entreprise n'est finalement pas en mesure de le rembourser, c'est l'État qui remboursera. Le grand avantage, je le rappelle, de cette mesure, c'est qu'à l'instant T, cela ne coûte zéro au budget de l'État, puisque ça ne coûtera que si les entreprises, finalement, ne parviennent pas à rembourser leurs prêts. On a aussi des 7 milliards d'euros, par exemple, qui sont là pour soutenir Airbus. On a appris ça cette semaine. On a aussi tout un ensemble de mesures qui ont été annoncées hier, au moment où nous enregistrons cette émission pour le monde de la culture, avec en particulier la prolongation des droits pour les intermittents du spectacle. Donc, tout ça est bien évidemment nécessaire et il fallait le faire. En même temps, c'est coûteux, mais ça, on en reparlera dans l'émission de la semaine prochaine, de l'endettement public et des conséquences justement sur les finances de l'État. Mais donc, on va avoir, juste pour terminer, à la fois une politique de relance du côté de l'État, mais aussi une politique de relance monétaire réalisée par les banques centrales.
D'accord, parce que j'imagine que cette crise va être évolutive. On ne sait pas quelles sont les perspectives qui nous seront données, ni comment la situation va tourner. Et donc, j'imagine aussi qu'il faut que les pouvoirs publics et les banques centrales prennent leurs dispositions de façon à ne pas se laisser surprendre par une aggravation, par exemple.
Alors, l'idée, justement, d'une intervention aussi rapide et aussi massive, et du côté de l'État, et du côté des banques centrales, je vais y revenir juste après, du côté des banques centrales, pour expliquer un peu les modalités. Elle est justement là pour essayer de faire en sorte, en tout cas, de poser les conditions, les garde-fous, pour que la crise soit rapidement passée. C'est-à-dire que ces mesures, elles sont censées être là, un, pour éviter que des entreprises fassent faillite, et donc que dès le 11 mai, sauf pour les restaurants, les bars, les cinémas, mais elles puissent rouvrir et reprendre leur activité comme avant, pour faire en sorte que ceux qui ont été en chômage partiel pendant cette période malgré tout, aient maintenu un niveau de salaire, 84% de leur ancien salaire, suffisant pour reprendre leurs habitudes de consommation dès la sortie du confinement. Donc, tout est mis en place, enfin, ces politiques, ces mesures sont mises en place intégralement dans l'objectif d'éviter, justement, que la situation ne soit durablement déprimée.
Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre les sommes qui sont consacrées par les États à cette relance économique avec quelque chose dont on entend aussi beaucoup parler en ce moment, qui est la question de la transition écologique? Dans le discours citoyen, on entend beaucoup dire il faut que le monde ne soit plus le même, il faut qu'on se tourne résolument vers les véritables objectifs de l'humanité, à savoir la transition écologique. Et donc, il y a un peu les défenseurs et les tenants de cette thèse, et puis ceux qui sont prêts à se précipiter à nouveau dans la routine capitaliste qui était la nôtre jusqu'à présent. On l'a vu avec les files d'attente devant les McDonald's. Donc, je voulais mettre un petit peu en rapport les sommes qui sont consacrées à la relance avec celles qui sont consacrées à la transition écologique. Donc, Renaud, est-ce que tu as déjà entendu parler du rapport Stern de 2006?
Alors, écoute, le nom me dit quelque chose, puisque Stern, si mes souvenirs sont bons, est un ancien ministre, mais ça reste relativement flou dans mon esprit.
Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que le rapport Stern avait été commandité par le gouvernement britannique. Il s'agissait à l'époque de faire un petit peu l'état des lieux sur le changement climatique et les efforts à faire. Et donc, un des objectifs du rapport Stern était de savoir quel pourcentage du produit intérieur brut, du PIB, devait être consacré par les États à cette fameuse transition écologique. Le rapport préconisait 1% et assez rapidement, on est passé à l'idée que 2% du PIB des États était nécessaire pour financer cette transition écologique. De son côté, le GIEC, je ne présente plus le GIEC, hein, qui fait très souvent parler de lui sur cette question, lui estime que les besoins d'investissement dans le domaine énergétique se situent aux alentours de 2,5% du PIB. Donc, on est à peu près dans cette fourchette-là, on est entre 1 et 2,5%. Ce sont des chiffres qui semblaient faire consensus jusqu'à présent. Et aujourd'hui, avec la crise du coronavirus et les mesures de financement des États à la relance économique, on constate que les sommes sont un tout petit peu différentes, les sommes qui sont consacrées à cette relance économique. On a parlé de 2200 milliards de dollars des États-Unis. La France annonce 345 milliards d'euros, me semble-t-il. L'Allemagne, 750 milliards d'euros. Le Royaume-Uni, 350 milliards d'euros. La Suisse, 42 milliards de francs suisses. Alors, si on additionne un peu tous ces montants avec les programmes exceptionnels de la Commission européenne, est-ce que tu sais à quelle somme s'élèvent ces mesures de relance? Même pour l'Europe.
Non, mais forcément à un montant très 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 supérieur à celui qui était anticipé pour la transition écologique. Mais vas-y, Eric.
Donc, on estime que ce sont plus de 1500 milliards d'euros qui sont engagés pour venir en aide à l'économie rien que pour l'Europe. Si on rapporte ça en pourcentage du PIB des États, on est à un peu plus de 11%. Est-ce que cette disproportion, qui inclut d'ailleurs le renflouement massif des compagnies aériennes, du fret maritime, des croisières, de tout ce qui va à l'encontre un petit peu des objectifs de transition écologique, est-ce qu'on n'est pas là finalement dans des choix qui sont déjà avérés, déjà faits? Et est-ce qu'on ne peut déjà pas faire une croix définitive sur le monde meilleur qu'on était en droit d'attendre ou que beaucoup espéraient?
Alors, c'est une... On dit parfois comparaison n'est pas raison, mais là, en l'occurrence, la comparaison mérite d'être faite et particulièrement parlante. Trois éléments pour répondre à ta question. La première, les 1500 euros dont tu parles, ça reste un potentiel. Par exemple, quand on dit 345 milliards d'euros pour la France d'un seul coup ne va pas dépenser 345 milliards d'euros. Dans le lot, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, les 300 milliards d'euros de garantie des prêts. Donc, il est tout à fait, imaginons qu'au final, toutes les entreprises qui fassent des prêts de trésorerie durant cette période parviennent tous à le rembourser. Il n'y aura aucun centime de déboursé par l'État. Et donc, au total, l'aide aura été de 45 milliards d'euros à l'économie et non pas de 345. Donc, les 1500 milliards dont tu parles, c'est un potentiel. Alors, ça sera peut-être ça. Hein. C'est possible. Hein. Mais, bon, on ne sort pas d'un seul coup du chapeau 1500 milliards d'euros ainsi. Mais, c'est pas très grave, ça. Enfin, c'est pas très grave au sens où la comparaison que tu fais, elle a quand même un sens. Elle a quand même un sens parce qu'elle montre bien, et il faut le constater, qu'on est prêt à faire des efforts pour des choses qui nous semblent vraiment importantes. Clairement, on peut dire que la transition écologique ne nous est pas apparue dans les années précédentes aussi importante que la crise telle qu'on la connaît actuellement. Voilà, il faut le constater et l'acter. On est obligé de l'admettre. Voilà, la transition écologique reste quelque chose de secondaire aux yeux de nos gouvernements, peut-être parce que elle est secondaire à nos yeux, à nous en tant qu'électeurs, puisque manifestement on porte au gouvernement des partis politiques qui ne mettent pas la transition écologique comme une priorité absolue. Donc oui, forcément, ça interroge. La comparaison de ces deux chiffres, elle interroge.
Juste
Comment?
une dernière réflexion sur
Oui,
ce point,
vas-y.
Renaud. Peut-être aussi tout simplement que la transition écologique, même si elle nous met un couteau sous la gorge, ne nous a pas contraints à nous calfeutrer chez nous pendant des mois.
Tout à fait. Et aussi la transition écologique, on a beau savoir que c'est une urgence, on a toujours le... En tout cas, la tentation est grande de dire c'est urgent, mais cette urgence peut encore attendre un peu. Donc oui, il faudra mettre des milliards dans la transition écologique, mais là, à l'instant T, ce qui m'importe, c'est mon emploi et c'est mon petit bien-être. Alors que là, effectivement, quand tu es confiné et que tu vois que le PIB baisse de 10%, enfin, aux alentours de 10%, l'urgence est là à l'instant T. Mais je voudrais juste dire un troisième et dernier point sur cette question, qui est de dire que si on veut être optimiste, et moi j'aime bien essayer d'être optimiste dans l'existence, on peut dire que finalement ce n'est pas antinomique. Quand tu dis le fait que l'on mette 1500 milliards d'euros sur la table, ça prouve bien qu'il n'y aura pas de monde d'après. Eh bien, je me trompe peut-être, je suis peut-être d'une naïveté confondante, mais je me dis que l'un n'empêche pas l'autre. Lorsque tu as un incendie dans ta maison, tu peux à la fois te dire, là, à l'instant T, il faut à tout prix que j'éteigne l'incendie, mais ça ne m'empêchera pas, une fois que l'incendie sera éteint, de revoir intégralement tout l'agencement des systèmes de sécurité au sein de ma maison. Donc à la fois, on peut dire, là, il y a un incendie, donc on va essayer de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans l'extrême pauvreté dans l'année à cause de l'effondrement économique, mais en même temps, on va se donner, après, une fois qu'on aura sorti la tête de l'eau, on va se donner les moyens de réfléchir calmement et rapidement, si possible, à ces nouveaux enjeux. Peut-être pas du tout, hein, mais peut-être.
Écoute, la tendance actuelle semblerait démontrer que ces objectifs ne sont pas prioritaires pour le moment, puisqu'il y a déjà des choses qui sont investies pour le monde d'après. Et la perception qu'on peut en avoir est en tout cas que ça n'est pas une priorité absolue, même si ça
Ouais.
l'est, si ça le reste en théorie.
Alors, moi, je reprendrai ce qu'a dit Nicolas Hulot il y a 2 jours, parce que j'ai trouvé ça. Enfin, de toute façon, je vois pas comment on peut faire les choses autrement. Il a dit évidemment qu'on donne 7 milliards d'euros à Airbus, alors qu'on sait très bien que dans le monde de demain, si on veut respecter les enjeux, les défis écologiques, il faudra forcément qu'on utilise moins l'avion. Donc, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Et ce qu'il dit, je trouve ça pas totalement idiot, c'est de dire que évidemment qu'il faudra moins prendre l'avion, mais que on y arrivera d'autant plus qu'à l'instant T, on ne va pas mettre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens au chômage et dans une pauvreté absolue. Donc il faudra que les choses se fassent progressivement. Voilà. Mais bon, on va rester circonspect évidemment sur l'avenir. On en reparlera, hein, des alternatives possibles vers la décroissance. Mais clairement, là, à l'instant T, on n'y est pas. On est dans le maintien de la logique de production. Parce que simplement notre monde actuellement il repose dessus. On sait que ce n'est pas durable, mais c'est difficile de changer de logiciel d'un seul coup. Forcément, les choses se feront par transition.
Très bien.
J'aimerais juste terminer, parce qu'il nous reste, je crois, 2, 3 minutes, sur la politique monétaire, justement. Parce que j'avais dit qu'il y avait deux grands piliers pour la relance, la politique budgétaire mise en place par l'État, mais aussi la politique monétaire. Donc, pour dire les choses rapidement, jusqu'en 2008, les banques centrales dans le monde avaient plutôt une philosophie, surtout en Europe, qui était une philosophie de type restrictive, qui consistait à dire que ce n'est pas en créant massivement de la monnaie, que ce n'est pas en aidant les États, par exemple, à se financer, qu'on résoudra les problèmes économiques. Les problèmes se résoudront d'eux-mêmes par la compétitivité des entreprises. Et en 2008, les banques centrales, et en particulier la BCE, ont complètement changé leur façon de faire en mettant en place, pour ceux qui connaissent un peu l'économie, ce qu'on appelle les politiques monétaires non conventionnelles. Pour dire les choses rapidement et pour employer une image simpliste, mais en même temps pas complètement fausse, les banques centrales ont ouvert grand les robinets pour permettre aux banques de se refinancer massivement, pour que les banques, à leur tour, puissent massivement prêter auprès des entreprises et des ménages pour relancer l'économie. Alors ça n'a pas marché exactement comme on l'espérait, mais c'est hors sujet par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Il se trouve que c'est ce que l'on fait encore aujourd'hui. Et là, sache que la Banque centrale européenne, a déjà annoncé aux banques qu'elle serait massivement refinancée et que donc, au-delà des 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, il ne fallait surtout pas qu'elle s'inquiète si jamais les entreprises avaient du mal à rembourser leurs prêts. Et deuxièmement, il est même possible, mais ça on en reparlera la semaine prochaine qu'on parlera des finances publiques, il est même possible que les banques centrales se mettent à financer directement les gouvernements. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine.
D'accord, parce que j'imagine que derrière ce refinancement massif et cette création de monnaie, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, il va y avoir des conséquences.
Exactement.
Très bien, pour terminer l'émission, Renaud, je te propose d'écouter un très court extrait d'une émission sur Internet hein, qui est faite par La Tribune, et où on parle un tout petit peu de l'avenir. On disait que la crise était évolutive, et voilà encore une démonstration de cette assertion.
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, toutes les banques américaines qui viennent de publier leurs comptes ont envoyé, on peut dire, finalement le même message. Elles vont devoir faire face à une flambée des impayés de la part des Américains. Pourquoi? Parce que cette économie qui est à l'arrêt, engendre, encore une fois, va contraindre, on va dire, beaucoup d'Américains à ne pas pouvoir rembourser leurs crédits, leurs emprunts.
Voilà, donc tu l'as entendu, c'est très court. Ça met en perspective une chose, c'est que est-ce que finalement la pauvreté qui s'abat sur de nombreux citoyens américains ne risque pas de relancer un problème de type crise des subprimes?
Tout à fait, exactement. Alors en plus, là, la personne n'en parle pas dans l'émission, mais il y a aussi le problème de la dette des étudiants américains qui s'endettent très massivement pour financer leurs études et qui financent ça entre autres par des petits jobs. Et là, en ce moment, ce n'est plus possible. Donc c'est possible, mais en même temps, en 2008, il y a eu une solution qui a été trouvée à ça. Ça, avec toutes les conséquences que ça a eues sur l'économie, ça a été le refinancement à foison des banques par les banques centrales. Et c'est justement ce que je disais juste avant, à savoir que, à mon avis, enfin, en tout cas, c'est le chemin qu'on semble prendre. On va continuer, les banques centrales vont continuer à sauver les banques, quoi qu'il arrive, même s'il y a des défauts massifs de la part des ménages, et en particulier des ménages américains.
Très bien. Est-ce que c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine, Renaud?
Alors, la semaine prochaine, on parlera des finances, des conséquences sur l'endettement public, et la semaine d'après, on parlera des alternatives, on fera un peu d'utopie.
Très bien, Renaud. Je te remercie beaucoup et je te
Eh
souhaite
bien,
un
c'est moi
bon
qui te
déconfinement.
remercie. Merci, toi de même, et puis une grande pensée à tous nos auditeurs et à toutes les personnes encore touchées par ce virus.
Absolument. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.